étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close. Qui donc pouvait être ces gosses, cette invasion de petites filles?
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, voire un petit peu avant, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 52e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur indino-jurassien Christian-Claude Louis Côté-Aymard, dont les derniers livres « L'ange curieux et autres nouvelles »,« Suzy Barr » et « Hep, jeune homme » sont parus en 2025, sans oublier son nouveau roman « L'enfant qui n'inquiétait pas les oiseaux », paru le 25 janvier 2026. Tout ça aux éditions Orage Lagune Express. Christian, bonsoir.
Bonsoir Michel, merci de ton accueil sur Radio B.
Merci d'être venu. Donc toi, tu es né à Montréal-Lacluse, tu as longtemps vécu à Oyonnax et tu habites désormais à Viry dans le Jura. Avec le temps qui passe, tu avais besoin de t'éloigner de la ville et de te rapprocher de la nature.
Je ne me considère pas comme éloigné d'Oyonnax, puisque c'est vraiment ma ville de toute façon. Je ne suis qu'à 8 km dans la montagne.
C'est vrai.
Mais non, c'est une ville qui est très présente pour moi. J'y descends tout le temps et je m'en inspire dans mes bouquins.
Oui, ça c'est sûr. Alors, donc tu es né en 1959, ton premier ouvrage, enfin là je cache rien parce que c'est marqué dans tous tes livres. Donc,
est vrai.
Tout est vrai, là j'invente rien. Donc tu es né en 1959, ton premier ouvrage est paru en 1979, tu es parti dans le Jura en 2009 d'après les chiffres, d'après ce que j'ai lu. Alors c'est un pur hasard ou tu as un rapport particulier avec le chiffre 9?
Alors là, je viens de découvrir effectivement qu'il y avait beaucoup de neufs. C'est assez curieux, effectivement. Je me demande si je ne vais pas jouer au loto bientôt.
Alors, à moins que cela ne soit avec celui des dizaines, 0, 20 et 50.
Alors, tout est possible avec les chiffres. Hein. J'en ai fait les frais. Ça a été mes ennemis longtemps. Maintenant que j'ai pris de l'âge, 66 ans, c'est le chiffre du diable. Presque le chiffre du diable.
Ouais.
Donc, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Mais les chiffres ont eu un rôle, on va dire, difficile dans ma vie.
Bien. Quelle place avait la lecture et l'écriture lorsque tu étais enfant puis adolescent?
Enfant, ça avait déjà de la place quand je ne lisais pas, quand je ne savais pas lire. J'avais mon arrière-grand-mère qui me lisait des livres déjà, de mon niveau évidemment. Donc ça a tout de suite eu beaucoup d'intérêt pour moi, beaucoup d'importance, dès l'enfance.
Tu avais 13 ans lorsque tu as écrit tes premières histoires. La lecture ne te suffisait plus, pour toi l'adolescence était synonyme d'ennui, c'est ça?
Oui, c'est souvent... L'ennui, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais quand on le vit, et surtout pendant l'adolescence, la première partie de l'adolescence, on va dire la préadolescence, c'est pas toujours facile. Effectivement, l'écriture a commencé à s'imposer. Il s'agissait pas d'écrire de manière littéraire, il s'agissait de raconter des histoires. D'ailleurs, c'est toujours mon cas, c'est ce que je cherche toujours. Mais le fait d'écrire des histoires, c'est un remède parfait pour l'ennui.
Alors, que racontais-tu dans tes histoires?
Ah là là, c'était des histoires improvisées, hein, c'était des improvisations, un petit peu comme quand on fait du jazz ou même dans certaines musiques. Donc c'était des espèces de des mosaïques, hein, c'est des mosaïques d'événements un peu particuliers, que je trouvais particuliers, extraordinaires, qui n'avaient rien d'extraordinaire, mais que j'assemblais. Et c'est là que j'ai découvert la fiction sans le savoir, c'est-à-dire un assemblage d'événements, un assemblage de choses qui font qu'on entre dans la fiction. Et la fabriquer, cette fiction, j'ai pris conscience tout de suite que c'était pas n'importe quoi.
L'enfance et les souvenirs qui vont avec te manquent, t'es un nostalgique?
Je suis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que j'écris beaucoup sur l'enfance, je ne suis pas du tout nostalgique de l'enfance, parce que c'est une période où on ne peut pas faire ce qu'on veut, on est limité. Donc c'est une période agréable parce qu'on a tous les siens, on a tous les nôtres autour de nous. Ils sont présents, hein, ils sont là. Mais en même temps, on peut pas faire ce qu'on veut. Et moi, ne pas pouvoir faire ce que je veux, ça m'a toujours dérangé dès l'enfance. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit des histoires, parce que dans les histoires, on s'évade et on sort des carcans qu'on nous a imposés.
Ton premier ouvrage n'est ni un roman, ni un essai, ni une nouvelle, ni une chronique, ni un recueil de souvenirs, mais un recueil de poèmes. Demi-songe, c'est ça ?
Oui, alors ça c'est vraiment de l'ancien temps, effectivement. En général, quand on commence à écrire, enfin quand on commence à publier, c'est souvent par de la poésie. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai pas été très original. À 20 ans, donc, j'ai sorti ce recueil que j'ai un petit peu désavoué à une époque, parce que je l'avais publié à compte d'auteur, chose qui ne doit jamais arriver. Mais quand on a 20 ans, on ne connaît pas les problèmes de l'édition, on ne connaît pas les réalités de l'édition. Et j'avais sorti ce recueil, comme beaucoup d'ailleurs, à compte d'auteur. Ce qui a été une expérience intéressante quand même, parce que ça m'a montré qu'il ne fallait jamais recommencer à publier à compte d'auteur.
C'est un format qui te convenait mieux, qui connaît mieux à tes inspirations du moment, quand ce recueil de poèmes ?
Oui, oui. La poésie, en fait, c'était plus pratique à publier à l'époque et plus pratique à imprimer pour un éditeur, même si celui-ci était un pseudo-éditeur. Mais on commençait tous dans les années 70, on commençait tous par la poésie. Hein, c'était plus facile à faire, plus facile à publier. On fait des plaquettes hein, quand on publie de la poésie, on sort souvent des plaquettes. Enfin, surtout à l'époque, hein. Et c'est moins lourd à fabriquer qu'un roman, c'est un petit peu la solution de facilité.
Tu avais avec les poèmes, tu avais cette liberté, celle de jouer avec les mots et les émotions que tu ne retrouvais pas lorsqu'on écrit une nouvelle, un essai ou un roman.
Oui, oui, la poésie donne une liberté. Une liberté de ton qu'on n'a pas forcément dans le roman. Le roman, c'est un chantier avec des horaires parfois, avec une méthode, alors que la poésie, c'est plus compliqué que ça et à la fois plus simple. C'est-à-dire que la poésie, c'est l'instant. Un poème, en fait, un jour, la sonnette retentit, on ouvre la porte et le poème est là. Et il faut lui ouvrir, il faut le laisser entrer. Ça, c'est le côté rapide, mais il y a aussi le côté très lent. C'est-à-dire qu'un poème peut se former dans l'esprit et on ne l'écrira que peut-être des mois, voire des années plus tard.
Écrire mène à tout, y compris au journalisme. C'est une profession qui t'attirait ?
Pas du tout. Le journalisme, ça s'est présenté. Comme je n'ai pas fait d'étincelle dans les études, il y a un moment, il a fallu que je travaille. Et bon, il se trouve qu'un poste de journaliste s'est présenté à Oyonnax. Je l'ai d'abord refusé. Et puis après, quand même, certains membres de ma famille m'ont dit qu'il était peut-être temps de redescendre sur Terre. Donc j'ai fini par accepter. Je me suis beaucoup amusé au départ, mais ça n'a pas duré.
Alors, on n'écrit pas pour un journal comme le Progrès. C'était le Progrès à la base,
non ? Oui, oui, c'était le Progrès.
C'est le Progrès, c'est ça ?
Oui, oui, ouais. Le Progrès de l'Ain.
Oui. Donc, on n'écrit pas pour un journal comme le Progrès, comme on écrit pour soi. Tu avais quand même une liberté de ton et de forme, même si la ligne éditoriale ne dépendait pas que de toi.
Les premières années, il se trouve que j'ai commencé comme correspondant de presse, hein, comme simple pigiste. Et je n'ai été embauché comme journaliste professionnel que 3 ans après. Et ça s'est d'abord bien passé parce que j'avais affaire à de vieux chefs, des gens qui sont certains avaient fait de la résistance et je m'entendais très très bien avec eux. Après, les choses ont changé parce que les vieux chefs prennent leur retraite et là, on est entré dans un autre monde qui n'était pas forcément celui dont je rêvais pour la suite de ma carrière.
Donc si ma mémoire est bonne, tu étais responsable du bureau du Progrès d'Oyonnax, c'est ça ?
Non ? J'étais pas chef d'agence, j'étais rédacteur à l'agence.
Okay.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as eu envie de quitter ce métier ?
Bon, il y a eu beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas forcément passionnant. La seule chose, c'est que je vais rester sur le plan littéraire. Quand on est journaliste, enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, on peut me contredire, on fabrique beaucoup de clichés. On est obligé d'utiliser du cliché. Or, dans la littérature, c'est exactement le contraire. Dans la littérature, on recherche autre chose. On cherche même à s'échapper du cliché. On essaye de le traquer et de le fuir. sauf quand on l'utilise délibérément. Mais ça fait drôle, la journée on fait du cliché, et puis le soir en rentrant, quand on fait de la littérature, on cherche à échapper au cliché. Donc il y a un moment, ça devenait acrobatique, plus qu'acrobatique.
Tu avais peut-être aussi besoin de liberté d'écriture, tant au niveau de la forme que du fond ?
Oui, j'ai jamais fait de passerelle entre l'écriture journalistique et l'écriture littéraire. Ce sont deux mondes différents qui ont chacun leurs contraintes, qui ont chacun aussi leurs avantages. Hein. Il ne faut pas non plus le nier. Mais c'est étanche. Très vite, d'ailleurs j'étais un peu naïf, je pensais que le journalisme, même le journalisme régional, allait m'ouvrir quelques portes dans la littérature. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.
Le métier de journaliste ne te manque pas ?
Absolument pas. D'ailleurs, j'en ai changé assez vite. Hein. Je suis resté à peu près 10 ans dans la presse. Donc, c'est un lointain souvenir.
Bien. Donc, tu t'es lancé... Est-ce qu'on peut dire qu'après, tu t'es lancé dans une carrière d'auteur ?
Non, c'est non. Pas... Pour moi, ça n'existe pas, une carrière d'auteur. C'est, non, j'ai eu d'autres... J'ai fait d'autres travaux alimentaires, purement alimentaires, mais qui n'avait plus rien à voir avec l'écriture. Donc c'était, ça m'a ouvert un espace de liberté pour l'écriture littéraire.
Alors depuis 1979, sont parus plus d'une trentaine de livres.
Ça doit être ça, j'ai pas compté.
C'est au moins 20, mais c'est...
Une vingtaine peut-être.
Mais c'est plus que 20, a priori. Ouais, donc, sans compter de nombreuses collaborations à différentes revues, dans Le Croquant et le magazine des livres, sans oublier des peintres, des sculpteurs et des musiciens, c'est ça ?
Oui, Le Croquant, malheureusement, c'est une aventure qui s'est terminée avec la disparition de son auteur, Michel Cornaton, que les Burgiens connaissent très bien. Il y avait le magazine des livres, là, c'était une aventure nationale, puisque c'était Joseph Vébray, un écrivain et aussi un patron de presse. Ça a été aussi agréable. J'avais un feuilleton qui paraissait dans ce magazine, qui était distribué partout. Enfin, c'était vraiment une expérience intéressante. Et d'ailleurs, les chroniques que j'ai écrites pour le magazine des livres, qui s'appelait « Tu écris toujours », hein, c'est un cycle de chroniques, ont donné un livre qui a été publié par un de mes éditeurs, Le Pont du Change, avec une sélection de textes. Et ce livre a été réédité il y a quelques années dans sa version complète, avec toutes les chroniques. Donc, tu écris toujours, avec le point d'interrogation, parce qu'on me posait souvent cette question. Alors, au fait, est-ce que tu écris toujours ? Oui. Donc, ça faisait un bon titre.
Un livre que tu es peut-être venu présenter en 2010, je me souviens, sur Feu Tropique FM, avec Christian Lux. Voilà.
Oula, quelle mémoire, oui, avec le très regretté Christian Lux, oui.
Voilà. Donc, je parlais du Croquant, je parlais du magazine des livres, je parlais de tes travaux avec des peintres, des sculpteurs et des musiciens, si je ne me trompe pas. Écrire n'est pas uniquement un travail solitaire.
Oh, je crois que c'est toujours un travail solitaire, mais très très ouvert sur les autres. Le fait de conserver du temps, de garder du temps pour écrire, être en retrait, ça permet de s'intéresser à l'œuvre des autres. Donc je suis évidemment très très intéressé par des domaines comme la peinture, la sculpture, la musique... Et donc, il m'arrive de faire des rencontres sur ce plan-là. Et j'aime bien, de temps en temps, écrire là-dessus. Écrire sur l'art, écrire sur la peinture, c'est un petit peu problématique parce que il faut vraiment connaître... Il faut avoir un rapport assez proche avec l'œuvre. Pas forcément, d'ailleurs, avec l'artiste, mais avec l'œuvre. Donc, c'est un exercice auquel je me suis prêté parfois, mais avec modération tout de même.
Avec le temps, tu as varié tes écrits, comme si tu avais peur de t'ennuyer, comme au temps où tu étais adolescent.
Non, parce que quand on prend de l'âge, on se rend compte que le temps est précieux et on n'a plus vraiment le temps de s'ennuyer. Mais il est vrai que la littérature, c'est une occupation à temps plein, même quand on n'écrit pas, puisque un livre naît... Et l'écriture, c'est le passage, c'est finalement l'étape la plus rapide. Ce qui est très très long, c'est la maturation qui se fait dans la tête.
Plusieurs éditeurs ont fait paraître tes livres à travers le temps. Il y en a un qui est plus important que les autres, c'est le label Orage Lagune Express. Peux-tu nous raconter comment s'est passée la rencontre et comment se passe cette collaboration un peu particulière ?
Oh là, c'est très très compliqué. Ça, c'est Orage Lagune Express, c'est né dans les années 80. Et donc il y a eu tout un tas de changements, tout un tas d'étapes. Après, ça s'est mélangé avec un éditeur du Périgord qui s'appelle toujours Germe de Barbarie. Et on s'est servi de ces deux appellations, une pour le Périgord et une pour la région Rhône-Alpes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un véritable feuilleton. Mais derrière tout ça, il y a effectivement un ami, Bernard Dezon, qui publie aussi une revue qui s'appelle Instinct Nomade. Et donc cette collaboration qui date des années 80 quasiment, dure toujours et se poursuit de cette façon, avec des publications... Pour la revue, par exemple, c'est une revue de littérature générale, mais il y a aussi des numéros spéciaux, par exemple sur la chanson. Hein, Bernard, c'est un grand amateur de chansons. Alors, il y a Claude Nougaro, on a fait un numéro spécial, je dis « on » parce que j'y ai participé. Tout récemment, Bernard a sorti chez Germe de Barbarie, qui est la petite sœur d'Orage Lagune Express, en fait. Il a sorti un numéro spécial, John Baez. Bon, là, je n'y ai pas participé parce que c'est pas trop mon... Je connais pas grand-chose dans ce domaine-là.
Depuis 2005, tu as beaucoup écrit et publié, que ce soit de la poésie, des romans, des nouvelles, des chroniques. Tu rattrapes le temps perdu?
Oui, je rattrape le temps perdu parce qu'il m'est arrivé de commencer... J'appelle ça des chantiers, hein, mes livres non finis, je les appelle des chantiers. Et il arrive que ces chantiers attendent soit en pause pendant des mois, voire des années, et parfois même des décennies. Donc je vais avoir 100 feuillets que je vais laisser tomber pour une raison ou pour une autre. Et après, ça va reprendre. Alors évidemment, j'ai beaucoup publié là, ces dernières années, surtout depuis 2013, mais c'était des suites de chantiers en fait.
On pourrait définir ainsi le style de Christian Côté-Aymard. Alors bon, tu vas me dire si tu es d'accord. Un raconteur d'histoire, oui.
Ah, tout à fait. Raconteur d'histoire, oui.
Alors, pas toujours drôle.
Non, comme la vie.
Parfois mélancolique, mais avec un ton souvent humoristique et qui fait tout pour que la lectrice ou le lecteur ne s'ennuie pas. C'est une des raisons pour lesquelles tes ouvrages sont courts.
Oui, ça dépend. Il y a aussi des commandes, donc parfois je me plie au format qui m'est imposé, comme ça a été le cas pour un faux polar que j'avais écrit, qui était le Club des Pantouflards, que j'ai écrit à la suite d'une commande. Hein. C'était pour les éditions de la Petite Lune Bleue, Nikta, ça s'appelait en grec, ça veut dire la lune ou quelque chose comme ça. Donc c'était, on me demandait un polar régional. Donc là, je me suis plié au format et c'était un format court. Mais globalement, ça peut aussi... Le court, c'est quelque chose que j'apprécie parce que je pars du principe que quand j'écris, je ne dois pas m'ennuyer. Si je m'ennuie en écrivant par exemple un livre que je veux faire, que je voudrais plus long, je suis certain que le lecteur s'ennuiera aussi. Donc je préfère rester dans des limites admissibles pour les gens qui me lisent, parce qu'un lecteur, une lectrice, il ne faut pas jamais oublier que c'est quelqu'un qui va vous consacrer du temps. C'est quelqu'un qui consacre du temps à un inconnu. Donc je suis très très attentif à ça, j'essaye de ne pas faire de longueur.
Alors, le titre de tes livres illustre bien qui tu es, je trouve. Le Club des Pantouflards, tu le disais. Poème du bois de chauffage, une folle nuit d'un amour ou un beau dîner chez Lapin. Effet et prodige de la lune sur le destin d'un voyageur assoupi au visage souriant. Ma pomme a des vapeurs. Dragon, ange et poux. Les fans d'Hubert Félix Thiéphaine ne sont pas dépaysés. Moi je trouve. Hein.
Félix Hubert Thiéphaine, je ne connais pas trop, mais apparemment, c'est quelqu'un qui doit avoir des titres aussi assez intrigants.
Oui. Enfin, je pensais à ça, mais bon, oui. Il y a d'autres.
Hein. J'imagine, j'ai écouté quelques chansons, mais vraiment d'une oreille distraite. Mais oui, le titre, on m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps, au salon du livre de Nantua, où mes titres apparemment ont intrigue. Donc tant mieux, parce que dans la décision d'achat d'un livre, le titre est pour beaucoup.
C'est vrai. Alors en 2010, paraissait aux éditions Le Pont du Change, Tu écris toujours que tu étais venu présenter, je le disais, dans l'émission Le Bazar Culturel avec Christian Lux sur Feu Tropique FM, aujourd'hui Radio B quand même, on existe toujours. Un manuel de survie à l'usage de l'auteur et de son entourage, 16 ans après sa parution, enfin au moins 16 ans après sa parution, on te pose toujours la question.
Oui, régulièrement.
Toujours.
Toujours. Alors peut-être qu'un jour je vais faire un second tome qui s'appellera Tu écris encore et peut-être après un troisième tome qui s'appellera « Tu n'écris plus ».
Donc tu écrirais toujours la même chronique finalement.
En fait, je voulais écrire sur la condition d'auteur, mais pas d'une manière plaintive, parce que chez les écrivains, il y a souvent beaucoup de plaintes. Surtout chez les écrivains qui voudraient gagner beaucoup plus d'argent avec leurs livres, alors évidemment ils se plaignent. Moi j'avais pas envie de faire un livre plaintif, donc Tu écris toujours, c'est un recueil de chroniques essentiellement humoristiques, mais qui sont toutes, tout est vrai, hein, tout est vrai, mais vu sous un angle quand même distancié. Et ce qu'on espère, c'est que ça fasse sourire les lecteurs.
Les conseils aux écrivains qui veulent se faire interviewer seraient les mêmes ?
Ah oui, ça c'est des conseils qui sont tout à fait, tout à fait adéquats. Hein. Rien ne change sur ce plan-là. Hein. La mentalité des... Les auteurs ont souvent une mentalité facile à décrire. Il y a quelque chose d'assez conventionnel là-dedans. Hein.
Alors on va revenir sur ton actualité de 2025 et 2026, puisque 4 livres sont parus aux éditions Orage Lagune Express. Alors en février 2025 paraissait L'Ange Curieux et autres nouvelles, 4 nouvelles alliant humour et fantastique, où le comique se teinte parfois d'une légère mélancolie. 4 histoires où ce ne sont pas forcément les êtres humains les moins surprenants.
Oui, ce recueil, L'Ange Curieux, c'est une réédition d'un ancien recueil qui était paru aussi aux éditions Le Pont du Change, dirigé par mon ami Jean-Jacques Nuel. Ces éditions n'existent plus maintenant, mais l'ami est toujours là, Dieu merci. Et donc, ce recueil a été réédité, augmenté d'une nouvelle toute récente. Donc maintenant, il existe sous cette forme. Donc là, les personnages, effectivement, sont des personnages qui sont visités par le surnaturel. Mais le surnaturel ne se présente pas forcément sous une forme très, très fantastique. Il y a une espèce de routine, par exemple, dans une nouvelle qui s'appelle L'Ange Curieux, justement, qui donne son titre au volume. L'Ange Curieux, c'est un ange qui s'ennuie et qui rend visite à quelqu'un, un gardien qui est dans quelqu'un qui travaille dans la sécurité, qui est enfermé dans un poste de garde, hein, ce qu'on appelle un poste central de surveillance, avec des vitres blindées, avec tout un tas de... impossible d'en sortir sans suivre une procédure, donc à l'isolement. Et les deux, l'ange s'ennuie aussi apparemment, puisqu'il vient rendre visite à ce gardien. Et c'est un ange, un vrai ange, hein, avec des plumes. Mais tant qu'à faire, comme quand le gardien finit sa vacation, il faut qu'il sorte les poubelles. Alors l'ange l'aide à sortir les poubelles. Voilà. Alors c'est pas. Évidemment, il y a quand même une chute. Hein.
Toujours. Alors, le deuxième livre, paru en septembre 2025, est un roman Suzy Barr. Les personnages présents existent dans la vraie vie. Alors pour le coup, ils sont des personnages de papier.
Oui, Suzy Barr, en fait, ça a hésité longtemps entre un roman et des nouvelles. Là, il y a des nouvelles. Et la principale, qui s'appelle Suzy Barr, constitue la moitié du livre. Donc, dans Suzy Barr, mais aussi dans les autres nouvelles, mais attachons-nous à la principale, Suzy Barr, il y a un mélange de personnages réels et de personnages imaginaires. Et dans ces personnages réels, il y a des écrivains, parce que ça se passe à Lisbonne. Hein. Suzy Barr, c'est Lisbonne. Et on a des choses bizarres aussi qui se passent là-dedans. Hein. On a quelqu'un qui erre dans Lisbonne, qui se retrouve, qui rencontre des statues, qui partent se promener quand plus personne n'est dans les rues. Il y a la statue, par exemple, de Luís de Camões, le grand poète portugais, qui de temps en temps part se dégourdir les jambes en traversant Lisbonne, de préférence la nuit.
Alors, avec Suzy Barr, tu nous emmènes au Portugal, hein, et à Lisbonne en particulier. Tu emmènes tes personnages dans des lieux que tu connais bien, et c'est souvent le cas dans tes romans et tes nouvelles, et je ne parle pas uniquement de Yona.
Oui, c'est quelque chose qui... C'est plus facile pour moi. est plus intéressant aussi parce que ça me permet de refaire les voyages que j'ai faits. C'est toujours intéressant. L'écrivain, c'est quelqu'un qui a une double vie, hein, voire une triple vie. Donc, les voyages que j'ai faits en tant que simple touriste, hein, ça, je ne me cache pas du tout. Je suis un touriste de l'espèce la plus anodine. Mais je refais ces voyages en écrivant des histoires, en les inventant, mais en m'inspirant toujours de paysages et d'environnements réels.
Alors, le troisième livre, Ep, jeune homme, paru en octobre 2025, mélange prose et poésie, comme tu as pu le faire il y a très longtemps, il me semble.
Oui, moi j'ai souvent été étiqueté poète. C'est une étiquette qui ne me convient pas particulièrement. Quand je fais paraître un livre sous l'étiquette poésie, en fait, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit de la poésie. C'est un problème un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que ce sont des textes qui se présentent à moi. Et qui refuse de se fixer dans une forme prose ou une forme poème. Donc il y a toujours une hésitation, ce qui fait que ça aboutit à une poésie narrative ou à une prose poétique. C'est un entre-deux. Et au début, ça me posait problème parce que, j'ai du mal à m'étiqueter poète. Je suis un amateur de poésie, je suis un admirateur de la poésie. Et quand on a lu René Char, quand on a lu Philippe Jacotet, quand on a lu tous les grands poètes, pour moi, c'est difficile de me nommer poète également. Hein, c'est un petit peu comme les saints. Si un saint dit qu'il est un saint, c'est qu'il commet un péché d'orgueil. Donc il n'est plus un saint. Ben, quelqu'un qui s'autoproclame poète, parfois il arrive que ce ne soit justement pas un poète. Donc je préfère me tenir dans cet entre-deux qui est à la fois prose et poésie.
Donc Eb jeune homme, c'est raconte l'histoire d'un jeune homme. C'est celui que tu étais ou c'est celui que tu es resté ?
Or, je pense qu'il y a dans tous les personnages de fiction qu'on peut inventer, on a toujours, bien sûr, une part de soi-même. Et Eb, jeune homme, il y a deux personnages en un. Il y a un personnage, il y a un jeune homme, et puis il y a un vieil homme. Et au milieu, il y a le diable qui rôde un peu par là et qui essaye de récupérer l'un ou l'autre. Donc c'est une histoire, en fait, faustienne, hein, c'est toujours... qu'est-ce que le jeune homme, quel est son destin? Et une fois que le jeune homme devient un vieil homme, ben qu'est-ce qu'il pense de son destin? Donc il y a ces textes-là, en fait, sont une allégorie des rapports qu'on a avec l'âge, le jeune âge ou l'âge plus avancé.
Tu te places, toi, de quel côté ? Celui de l'interpellateur ou celui de l'interpellé ?
Alors, justement, là-dedans, je me placerais plutôt, je prendrais plutôt volontiers la place du diable.
Ouais. Alors, dans Eb, jeune homme, tu interpelles un jeune homme. Pourquoi ce besoin de l'interpeller de cette façon, presque brusque ? T'as peur qu'il ne s'arrête pas ?
Le jeune homme, dans ce recueil, c'est une figure. C'est une figure un peu abstraite. Bien que j'essaye de décrire sa vie de manière concrète. Mais ça reste une figure abstraite. Et c'est quelqu'un qui passe dans une autre dimension en prenant de l'âge. Pour fixer un petit peu les choses, on pourrait imaginer que c'est un jeune homme qui est devenu errant à cause de l'âge. Et c'est comme s'il se promenait, il sortait un petit peu de chez lui et qu'il rentrait après, un instant après, et qu'on ne lui ouvrait pas la porte et qu'il était derrière la baie vitrée, hein, c'est ce que j'ai écrit dans un bouquin. Et il voit chez lui, mais entre-temps, il est devenu un vieil homme.
Alors, le dernier livre paru sur le label Orage Lagune Express le 25 janvier 2026 s'appelle « L'enfant qui n'inquiétait pas les oiseaux ». Peux-tu nous en raconter brièvement l'histoire ?
Oh, c'est l'enfant qui n'inquiétait pas les oiseaux, c'est la poursuite romanesque d'un autre livre que j'avais écrit qui s'appelait Les Chroniques oyonnaxiennes. Donc les Chroniques oyonnaxiennes, c'est des souvenirs perso réels, et l'enfant qui n'inquiétait pas les oiseaux, c'est le prolongement mais de manière romancée. Donc le cadre est le même, Oyonnax, un quartier d'Oyonnax, même quelques quartiers d'Oyonnax, la même époque, les années 60. Mais là, il y a une intrigue romanesque, il y a un fil conducteur, il y a des personnages de fiction. Ces personnages de fiction, d'ailleurs, sont souvent des personnages qui ont existé et que j'ai regroupés en un seul personnage. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle le vieux Christiansen, qui est l'ange gardien du narrateur. Narrateur qui est un petit garçon d'à peu près 9-10 ans. Et ce vieux Christiansen est là pour le faire redescendre sur Terre. Parce que le héros de l'enfant qui n'inquiétait pas les oiseaux, c'est un enfant qui est, comme tous les enfants, entre le réel et le rêve. Et ce personnage, son ange gardien, qui circule à vélo moteur et qui sait ouvrir les coffres forts aussi, il représente le personnage concret qui va empêcher l'enfant de partir trop dans l'imaginaire.
Alors, il est encore question de fantastique un peu, puisque l'enfant en question ne fait pas fuir les oiseaux lorsqu'il s'approche d'eux. Ses amis ne sont pas des enfants, mais des animaux.
Ah oui. Souvent, les enfants, pour moi, les animaux, c'est quelque chose de très important. Hein. C'est aussi des souvenirs d'enfance, ce livre. Il n'y a pas vraiment de fantastique. C'est plutôt le seul élément fantastique de l'histoire, c'est une allégorie, là encore, une allégorie de l'enfance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'enfant qui s'appelle Till, c'est son surnom, il ne fait pas fuir les oiseaux à son passage, mais un jour viendra où les oiseaux s'envoleront à son passage. Et bien sûr, ce jour-là, ce sera parce qu'il est devenu un adulte.
Till, c'est un surnom.
Alors, Till, c'est un surnom. Là, on est dans la fiction. Hein. Moi, ouais. Je n'avais pas de surnom quand j'étais petit, parce que c'est aussi des souvenirs personnels. Hein. Tout ce qui est décrit là-dedans, les paysages, tout relève de mon enfance. Mais le surnom de Till, dans cette fiction romanesque, hein, c'est quand même un roman, lui est donné par des amis de la famille qui vont à l'opéra, qui sont habitués à sortir et qui sont allés voir Till l'Espiègle, qui sont allés écouter Till l'Espiègle. Till l'Espiègle, c'est un poème symphonique de Richard Strauss, inspiré de la fameuse des fameux écrits de Charles de Coster. Et Till l'Espiègle, c'est une œuvre moi qui me parle beaucoup. Et j'ai eu l'idée de prêter ce surnom à mon petit narrateur.
Alors Till, un prénom d'origine allemande, son protecteur s'appelle Christiansen. Ça sent bon les contes d'Andersen.
J'y ai pas pensé, mais je serais d'accord avec ça. Le Christiansen, en fait, c'est un souvenir personnel. C'est-à-dire que j'ai de la famille en Belgique, j'ai mon parrain, ma tante, qui m'ont énormément gâté. Et on allait, quand j'étais petit, je passais mes vacances là-bas, hein, à Mons, en Belgique. On allait se baigner dans la mer du Nord. Et comme j'y allais en été, on me faisait mon Noël, pendant les vacances. Et je rentrais dans un magasin de jouets où j'avais le droit de choisir ce que je voulais. Et ce magasin de jouets s'appelait Christiansen.
Alors, le personnage que tu as appelé Christiansen, moi, me rappelle étrangement quelqu'un que certains ont connu à Iona dans les années 70, bon, peut-être 60 avant, hein, 80, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est le Serfin.
Oui,
ça,
oui,
ça,
alors...
Ça te parle, ça te parle ce nom-là quand...
Bien sûr, le Serfin, ça me parle énormément, mais le vieux Christiansen, c'est un mélange aussi d'autres personnages, parce que souvent, dans nos provinces et dans nos forêts, il y a beaucoup de gens qui vivent, enfin, dans les années 60, 70, il y avait beaucoup de gens qui habitaient dans des appartements en ville, mais qui passaient la majeure partie de leur temps dans des cabanes de jardin. Donc, c'est un mélange. Alors, il y a un peu du Serfin, de ce fameux personnage, dans Christiansen, mais Christiansen est plus pragmatique, plus concret que le Serfin. Et c'est là qu'on voit que la réalité dépasse souvent la fiction. C'est le Serfin, c'était quelqu'un je ne suis pas sûr qu'un romancier oserait inventer un tel personnage.
Non. Et pourtant, il a existé.
Et pourtant, il a existé, bien sûr.
Ouais, ouais, ouais. Donc, tu parlais de Iona. Iona est une ville qui est inspirante et propice à l'écriture pour toi.
Ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais jeune, très jeune écrivain, je me disais, quelle malchance de naître à Iona, dans un terreau aussi aride pour la littérature. Et bien sûr, je faisais fausse route. Et la maturité venant, je me suis aperçu qu'au contraire, plus le terreau est aride, plus l'occasion d'inventer nous est donnée. La littérature, pour moi, ça, je la compare toujours à une plante rudérale, une plante de décombre. Alors, je ne vais pas dire qu'Oyonnax est une ville de décombre, loin de là. Hein, j'y suis très attaché, c'est une ville que j'aime. Mais effectivement, le terrain pour la fiction, le terrain pour le roman est aride. Et cette aridité a donné chez moi de belles plantes qui sont des romans dont je suis content.
Alors, celles et ceux qui ont vécu à Oyonnax dans les années 60 et jusque dans les années 80 ont reconnu les lieux et les souvenirs de leur enfance aujourd'hui disparus. Ben, je pense au petit vieux.
Hein, oui, oui, oui. Hein. Et ben, le petit vieux, bien sûr. Hein, ça, c'était.
Oui. Le marchand de bonbons.
Hein, le marchand vieux, de bonbons.
Hein, le magasin Outard, hein, connu par les enfants pour leurs jouets, en particulier les voitures et les trains électriques.
C'est ça.
Les pétards communs à chez Outard et au petit vieux.
Oui.
La très bonne pâtisserie, je me rappelle à l'époque, chez Clavel.
Clavel, oui.
Les pièces de 5 francs, bon, en chocolat ou pas.
Hein. Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais des pièces de 5 francs réelles.
Ouais. Bah, t'avais pas les deux.
Si, j'avais des pièces en chocolat, mais bon, les pièces en chocolat, moi j'étais quand même enfant, j'étais plus intéressé par les vraies pièces de 5 francs que par les pièces en chocolat.
Alors, et les cartes, les fameuses cartes hein, qu'on accrochait au vélo et qui, en frottant sur des rayons, donnaient l'impression aux gamins que nous étions d'avoir une moto.
Oui, hein, c'est ça.
La mobilette, la motobécane. Hein. Parce que toi, t'as pas connu la 103, c'est pour la 103 Peugeot. Toi,
ah, bien sûr que si. La bleue, hein, la moto bécane,
ouais,
c'était la bleue.
Avant, ouais. C'était avant.
Donc c'est la moto sur laquelle, enfin c'est la motocyclette voilà. sur laquelle. Voilà. Non, c'est même pas une motocyclette, c'est un cyclomoteur un vélomoteur.
Oui, un vélomoteur.
Sur laquelle circule mon personnage, le vieux Christian Sen.
Ouais.
Nous, après, à l'adolescence, on a eu donc des Peugeot et des 104 ou 103.
Les deux.
Moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu un Amigo. Honda Amigo.
Je me souviens plus.
Et le Honda Amigo, donc c'est un cyclomoteur de la marque Honda.
D'accord.
Et ce modèle s'appelait Amigo, ce qui va d'ailleurs être le titre du prochain tome des Chroniques oyonnaxiennes.
Ah. Alors, donc, sans oublier les livres de la Bibliothèque Rose, hein, le Club des 5, le Club des 7 ou les Fantomettes, le livre sent bon la nostalgie, pas forcément la mélancolie.
Je ne suis pas quelqu'un de proprement nostalgique. Ou alors, ça serait la nostalgie à la portugaise, ce qu'on appelait la saudade. Je prononce très très mal. La saudade, c'est une forme de nostalgie dans laquelle on a un certain bonheur d'être nostalgique. Donc c'est un sentiment qui est typiquement portugais, qu'on peut ressentir évidemment en France. Mais en France, on n'a pas de mots pour définir ce sentiment. Donc la nostalgie pure et dure, c'est pas trop ma tasse de thé.
Mélancolie non plus. Alors.
Mélancolie, il y a de la mélancolie. Ce sont mes personnages qui sont mélancoliques. Moi, pas vraiment. Mais mes personnages le sont parce qu'ils évoluent dans un monde qui est toujours tiraillé entre le rêve et la réalité.
Bien évidemment, il y a un méchant dans le livre. C'est Face de Lune qui a pris en grippe Till. Alors, a priori, c'est un souvenir douloureux pour toi. Tu voulais en quelque sorte l'exorciser ?
Non, l'exorciser, parce que effectivement, il y a des gens qui ont vu un thème de harcèlement scolaire dans ce livre. Ça n'allait pas si loin. Effectivement,
des pas scolaires, mais
il pouvait y avoir quelque chose de cet ordre, mais c'est bien dédramatisé dans l'histoire. Hein. Il y avait les bagarres à la sortie de l'école. L'école n'a pas été pour moi quelque chose de joyeux. Mais je n'ai pas cherché à régler des comptes dans ce livre. Hein. C'est une atmosphère, une ambiance qui collait à l'époque. Et ce n'est pas du tout un livre de revendication. Non, c'est juste un livre d'ambiance. Alors effectivement, il y avait peut-être au début une forme de harcèlement scolaire, mais j'y ai... Là, contrairement à Till, qui est aidé par des oiseaux, hein, le thème des oiseaux est là-dedans, moi j'y ai mis fin de manière, on va dire, un peu musclée.
Alors, le dernier livre, c'est aussi une ode à la nature. Tu étais proche d'elle lorsque tu avais 9 ans ou tu l'es plus aujourd'hui en ayant déménagé à Viry dans le Jura, par exemple ?
Non, je me suis toujours senti proche de la nature, exactement de la même manière lorsque j'étais enfant que maintenant. C'est le même rapport. Hein. Je considère qu'on fait partie... Ce que j'ai découvert plus, par contre en vieillissant, c'est que la nature, en fait, nous sommes la nature. Nous en faisons partie. On ne peut pas la considérer comme une entité extérieure. C'est nous sommes la nature. Donc ça, je le savais plus ou moins inconsciemment quand j'étais gamin. Maintenant, j'en suis réellement conscient.
Alors, l'histoire de ce dernier livre se déroule très souvent en extérieur.
Ah oui, oui. J'ai eu la chance, moi, de vivre au contact de la nature, aussi bien dans la propriété de mes grands-parents, au 17 boulevard du Puy. Il y avait un grand jardin. J'avais pas trop le droit de sortir des limites de la propriété, mais il m'arrivait d'enfreindre cette interdiction. Et il m'est arrivé de faire des expéditions dans la forêt que j'étais pas censé faire. Mais à l'époque, on risquait pas grand chose.
Donc les enfants que nous étions étaient souvent dehors à l'époque, même quand il neigeait. Le béton a remplacé les prés et les forêts, à Yona en particulier. Hein. Les écrans ont bouleversé nos vies, y compris celles des enfants. Mais rien ne remplace la nature, la vraie vie.
Oui, moi j'avais pas conscience de ça. Hein. Quand un enfant n'a pas conscience de tout ça, il se développe, il s'adapte à l'environnement dans lequel il est, que ce soit un environnement naturel ou plus urbain. C'est après qu'on fait ce genre de distinction. Il y a plein d'enfants qui... L'enfant, en fait, est inventif. Il est inventif, non pas pour le plaisir d'être inventif, simplement pour s'adapter dans son environnement. Donc ça peut être effectivement, comme j'en ai eu la chance, une grande propriété dans une maison un petit peu bourgeoise. Toutes les maisons du quartier étaient un petit peu comme ça. Hein. C'était des maisons avec des ateliers. Derrière, il y avait des grands jardins, voire des parcs. Mais me serais développé tout aussi, de manière à peu près identique, dans un autre environnement.
À la fin de tes livres, il y a la liste des musiques écoutées durant l'écriture. Alors, pas de variété, pas de rock, hein, pas de métal, uniquement de la musique dite classique. Elle a toujours été présente chez toi ?
Oui, oui, et pour une raison très simple, c'est que quand mes premiers disques classiques que j'ai écoutés appartenaient à mon grand-père et à ma grand-mère, donc il y avait même des 78 tours, hein, donc j'ai commencé par écouter tout ça. Je me souviens que j'avais écouté le deuxième concerto de Rachmaninoff sur un disque qui était ébréché, alors il manquait le début. Et puis aussi, il y avait Dvorak et sa symphonie du Nouveau Monde, hein, que j'ai écouté très très jeune, et pour moi, c'était de la musique de western. Ben, j'avais pas tout à fait tort parce que cette symphonie a été composée donc dans l'épisode américain de Dvorak. Et moi, je voyais ça comme de la musique de western. Donc, j'avais aucun problème pour écouter ça. Ça me motivait beaucoup parce que j'aimais bien les westerns quand j'étais petit. Quoi.
Alors, comment la musique influence ton écriture ? Elle est choisie par hasard ? Quand tu
l'écoutes ? Non. J'écoute jamais de musique en écrivant. Ah. Sauf que quand j'écris, je me force pas beaucoup, hein, c'est pas très fatigant pour moi parce que c'est comme si j'assistais à un film. Je vais au cinéma, je vois ce que je vais écrire et en même temps il y a tout de suite une musique que je connais qui vient parfois interagir avec ce que je vois. Donc, par politesse pour les compositeurs qui ont œuvré, je les cite à la sortie du livre.
Alors, tu t'exprimes également via ton blog littéraire, hein, cotemar.oefort.com, qui fait suite à ton site internet, hein, c.cotemar.free.fr, si je ne me trompe pas.
Le site internet, il est plus ou moins à l'abandon parce que c'est trop lourd. Donc, ce qui est maintenant, alors
oui,
il y a peut-être encore des informations qui traînent.
Un petit peu.
Pas beaucoup.
Oui. Ouais,
mais le blog est tout le temps mis à jour, tout le temps d'actualité.
Voilà. Donc, tu es un peu le monsieur Jourdain du journalisme. Hein. Tu écris des articles de journalisme sans le savoir.
En ayant désappris, mais il m'est arrivé quand même après la presse régionale, la presse locale, il m'est arrivé quand même de poursuivre quelques collaborations dans la presse littéraire spécialisée.
Tu écris donc beaucoup sur ton blog littéraire, un journal littéraire, c'est un journal littéraire en quelque sorte, tu restes un journaliste dans l'âme avec ce blog.
Oui, j'ai du mal à me considérer comme un journaliste. D'ailleurs, j'avais beaucoup de collègues qui ne se privaient pas de me rappeler que je n'étais peut-être pas un journaliste. Ils avaient peut-être raison, hein, maintenant. Non.
T'avais la carte ?
Bien sûr, oui. Bon, je l'ai gardée en souvenir, d'ailleurs. Mais je ne m'en sers plus, hein, ça serait interdit, puis elle est périmée de toute façon. Mais je me vois plutôt dans mon blog, je me vois plutôt comme un chroniqueur, plutôt que comme un journaliste.
Alors, une autre de tes passions avec l'écriture, la musique classique, les voyages et la nature, c'est le cigare.
Oui.
Alors, comme George Sand, comme Ernest Hemingway, comme Mark Twain également, fumer le cigare est tout un art, y compris un art de vivre.
Je pense pas que ce soit tout un art, mais un art de vivre, oui, parce que ça incite à la lenteur, ça incite à la réflexion, à la méditation. Alors, pas la méditation telle qu'on l'entend maintenant, c'est une méditation beaucoup plus concrète, mais ça incite aussi à la bienveillance. C'est-à-dire qu'en général, les fumeurs de cigares sont souvent des gens bienveillants parce qu'ils passent un bon moment. Et ils consacrent le temps qu'il faut. Quand un cigare, c'est pas une cigarette qu'on va griller comme ça. C'est d'ailleurs grâce au cigare que j'ai arrêté la cigarette.
Alors, justement, à l'heure où la cigarette, même électronique, est bannie des lieux publics et même des écrans, qu'ils soient de télévision et de cinéma, le cigare a aussi mauvaise presse. T'es bien accueilli lorsque tu arrives avec ton cigare ?
Oh bah, de toute façon, je me suis toujours interdit de fumer dans des lieux fréquentés par le public. C'est la loi d'ailleurs, donc j'obéis volontiers à la loi parce que je pense que c'est tout à fait normal de ne pas fumer, de ne pas embêter les autres avec la fumée. En revanche, quand on est dans un club cigare, là, on gêne personne puisqu'on n'est qu'entre fumeurs de cigares. Mais globalement, je ne fume même pas chez moi. Chez moi, je sors de la maison pour fumer. Alors l'hiver, ça pose quelques problèmes parce que quand certains cigares, on met à peu près 2 heures pour les fumer, 1 à 2 heures. Alors quand il fait très froid, en hiver, il faut bien s'habiller.
C'est très long. Alors les salons, les librairies et les médiathèques sont des lieux incontournables pour un auteur. Tu es à l'aise dans ces lieux de dédicace et de rencontre avec ton public ?
La plupart du temps, oui. Si je me suis levé de bonne humeur, je suis à l'aise. Salon de Nantua, c'est mon préféré dans la région parce que c'est quasiment un salon familial pour moi. Puis j'aime beaucoup Nantua, donc c'est un salon auquel j'aime beaucoup participer. Et son créateur, Renaud Donzel, est aux petits soins pour ses invités, donc c'est vraiment très très agréable. Après, il y a d'autres salons plus éloignés, qui sont plus anonymes, donc là c'est un petit peu plus commercial, entre guillemets.
J'imagine que tu es dans l'écriture d'un nouveau livre. Où nous emmèneras-tu et sous quel format surtout ?
Donc il y a plusieurs chantiers, parce que je travaille toujours plusieurs livres à la fois. Et là, celui qui risque, sur lequel je vais retravailler maintenant, que j'avais mis en pause l'an dernier, c'est un roman qui sera un peu plus fourni que les autres, et un peu plus romanesque, peut-être moins littéraire d'ailleurs. Ça va s'appeler, d'ailleurs le titre est déjà là, ça va s'appeler « Le songe de l'homme armé ». En référence à une œuvre musicale de Guillaume Dufay, musicien de la Renaissance. La première partie va se passer à la fin du Moyen-Âge, donc vers la Renaissance, et l'épisode suivant se passera quelques 800-900 ans plus tard.
Bien, tout à l'heure nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique 4e de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les 4e de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les 4e de couverture.
4e de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces dans la région proche. Christian, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Oh, alors là, c'est une question qui me prend par surprise.
Bah oui, pour ce
coup.
Bah,
le coup de cœur littéraire, le dernier, bah, c'est pas une nouveauté. C'est un roman d'Andrei Makin qui a eu beaucoup de succès à l'époque, qui s'appelle toujours Le Testament français. Et je me le suis procuré tout à fait par hasard, dans une bouquinerie, je crois. Et c'est un livre dont je connaissais l'existence et que je n'avais jamais eu l'idée de lire. Ça remonte à quand même assez loin, je ne me rappelle plus. Mais c'est vraiment mon dernier coup de cœur, oui. Le Testament français d'Andrei Makin.
Côté proposition de la quinzaine, notons le roman de Ludovic Miserolle, La Belle de Caux aux éditions IFS, les thrillers de Céline de Roigny, Les Beaux Mensonges aux éditions Pocket et À Corps Perdu aux éditions Presse de la Cité, le roman de Martha Hall Kelly, L'Appel des Colombes aux éditions Charleston, le thriller de Michel Lecoq, Haïku Noir aux éditions Alter Real Édition, le roman de Philibert Hume, Roman de Gare aux éditions des Équateurs, depuis tant que je l'ai cité celui-là, le polar de Donna Leon, Le Palais de l'Infortune aux éditions Kelman Levy, le roman de Frédéric Lepage, Plus fort que la nuit aux éditions Tornada, le thriller de Freda McFadden, La Locataire aux éditions City. Freda McFadden, tu as été...
Non, je ne connais pas. Dans la série, là,
La femme de ménage.
Ah oui,
t'as forcément entendu parler, oui. Au moins le titre.
Oui, oui.
Voilà. Le roman de Léna Pongélard, Brûle Bleue, aux éditions Bourgois, qui sera avec nous au mois de juin. Le thriller de Nicolas Leclerc, Aurore, aux éditions du Seuil. Le roman de Philippe Loubrano, Lavadera, Fragment d'en bas, aux éditions de La Lanterne. Le thriller de Jackie Schwartzmann, Killing Me Softly, aux éditions La Manufacture de Livres. Le roman d'Anna Stuart, Les Sœurs de la Résistance, aux éditions City. Le thriller de Geneva Rose, Tu n'aurais pas dû venir ici, aux éditions XO. Le roman de Martine Delhomme, La Résistance des Cœurs, aux éditions Presse de la Cité. Le Cozy Crime de Colin Gattel, Marie Simple, Enquête, Crocodile Dandy, aux éditions City. Le roman de Peter Svensson, Ceux pour qui on meurt, aux éditions Gallmeister. Le polar de Xia Long, Amour, Meurtre et Pandémie, aux éditions Point. Et le roman de Jacques Robben, Même les goélands se sont tus, aux éditions Gallmeister. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces. Tout d'abord, Christian, as-tu des rencontres et séances de dédicaces dans les régions proches à annoncer?
Ah non, non, pas du tout, parce que c'est la période où je me mets en pause, surtout après avoir fait un salon. Moi, j'ai quand même l'habitude de vivre assez retiré chez moi. Et les apparitions publiques, tout aussi agréables qu'elles puissent être, me fatiguent un petit peu.
Même à la librairie Buffet, par exemple?
La librairie Buffet,
c'est pas pareil.
C'est pas pareil, hein.
C'est
oui, voilà, c'est, on peut dire que c'est quasiment dans mon cercle habituel. Mais c'est vrai que je répugne à me déplacer. Hein. Je suis atteint de ce qu'on appelle je me perds facilement. Donc je ne peux pas partir très très loin, ou alors il faut que je parte avec mon épouse pour me guider.
Oyonnax, ce n'est pas très loin.
Alors Oyonnax, non, il n'y a pas de problème pour
Oyonnax. Je parle
d'Oyonnax. Mais globalement, j'évite de faire des séances de dédicaces, sauf au salon évidemment, parce que là on y va pour ça. Mais les séances de dédicaces ne sont pas quelque chose qui me passionne. Donc si l'éditeur me le demande, je l'ai fait, mais là personne ne me le demande, donc je reste à l'abri. En revanche, si on me le demande, la plupart du temps je dis oui, mais si on me le demande pas, je n'insiste pas.
Donc tu vas pas présenter ton nouveau livre à la librairie Buffet?
Alors ça, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai rien prévu sur ce plan-là. Je trouve que j'ai un petit problème avec les dédicaces. J'ai l'impression que quand on signe un livre, c'est qu'on est une superstar de la littérature. Or, ce n'est pas du tout mon cas, donc je ne vois pas pourquoi je devrais signer des livres dans une librairie. En revanche, si ça fait plaisir à un libraire, j'y vais. Mais je ne vais pas provoquer l'événement.
Bien, alors moi, j'ai deux séances dédicaces à annoncer. La librairie La Boussole, Le Bois d'Ouin, dans le Rhône, le samedi 7 mars. Arnaud Delâtre, de 15h à 18h. Et le même jour, à la librairie Montbarbon à Bourg-en-Bresse, Talent de l'Ain, de 15h à 18h avec Adrien Parti, Mylène Bouillou et René Lot. Voilà. Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Christian Côté-Aymard, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
C'était avec plaisir, Michel.
Oui. Alors, rappelons que tes derniers livres, alors attention, L'Ange curieux et autres nouvelles, Suzy Barr et Hep, jeune homme, sont parus en 2025, sans oublier ton nouveau roman, L'enfant qui n'inquiétait pas les oiseaux, paru le 25 janvier 2026 aux éditions Orage Lagune Express. Et puis on peut se les procurer dans toutes les bonnes librairies.
Alors ça dépend. Pour l'instant, on a commencé avec une diffusion essentiellement locale pour celui-ci, puisqu'il concerne Oyonnax. Donc toute la promotion va se faire sur la région. Donc évidemment, il sera disponible à la librairie Buffet, ça c'est sûr, à Oyonnax. Si la libraire est d'accord. Pour l'instant, il est tout frais. Hein. On n'a pas encore lancé la vente. Hein. Les gens peuvent déjà se le procurer sur Internet par correspondance. Mais il est sorti exactement pour l'inauguration du salon. Donc pour l'instant, il est encore il n'est disponible que par correspondance. Mais ça va changer petit à petit. Mais là, c'est trop récent pour pouvoir faire pour pouvoir conseiller des points de vente, quoi.
Est-ce que je peux citer quand même à Oyonnax le kiosque de l'hôpital d'Oyonnax?
Ah oui, bien sûr. Oui. Mais le kiosque de l'hôpital d'Oyonnax, ils l'ont pas encore
D'accord.
Il n'a pas encore été livré, il est tout frais.
Hein. Ouais. Alors, on peut suivre ton actualité sur internet via ton blog.
Oui.
Côté-aymard.ofort.com, hein, sans oublier les inévitables réseaux sociaux.
Oui, de toute façon, mon blog est couplé avec ma page Facebook. Voilà. Ça dialogue comme ça. Donc c'est très facile de me trouver. Il suffit, on peut me trouver en tapant mon nom. Tout sort tout seul, quoi.
Voilà. Le prochain invité de Roman de Gare le jeudi 12 mars 2026 sera l'auteure lyonnaise Maryse Vuillermet. Tu connais ?
Ah oui, je connais. D'ailleurs, elle a des nouveautés là qui sont très très intéressantes.
Bah oui, la Saint-Claudienne de naissance quand même.
Oui.
Présentera son dernier roman La Piaz ou La Pia.
Ou je sais pas comment on prononce les fameuses. Ouais.
Quand on est du coin, on ne prononce pas le Z, j'imagine. Donc, La Pia, hein, paru aux éditions Rouergue, le 1er octobre 2025, et qui se passe dans le Haut-Jura, pas loin des Rousses, dans ce coin-là. Quoi.
Oui, c'est ça.
Ouais, ouais. Bien, mais Christian, bonne chance pour la suite de tes aventures d'auteur.
Et merci.
Hein, bonne séance de dédicace, bon salon, et puis à bientôt sur Radio B.
À bientôt sur Radio B, avec grand plaisir, Michel.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman.